France Culture, l'esprit d'ouverture.
La bande dessinée, toute la bande dessinée, rien que la bande dessinée. Nouveau sur France Culture, chaque dimanche, le rayon BD, Victor Massé de l'Épinay.
Vous êtes plutôt couleur ou plutôt noir et blanc? Petits albums ou gros pavés? Encre de Chine ou palette graphique? Humour, science-fiction, autobiographie, histoire, reportage. Le rayon BD, c'est toute la bande dessinée.
Le rayon BD, ce dimanche à 15h30 et sur franceculture.fr.
Aujourd'hui, à la Maison de la Radio, la Fondation des Femmes organise pour la troisième fois un grand concours d'éloquence dont le thème est cette année « Violence conjugale et féminicide », un thème qui fait évidemment écho au Grenelle contre les violences conjugales, lancé ce mardi par la secrétaire d'État à l'égalité femmes-hommes, Marlène Schiappa. Zoé Royau, bonjour. Vous êtes notre invitée ce matin, vous êtes avocate pénaliste et porte-parole de la Fondation des Femmes, cette association qui a pour ambition d'encourager les projets en faveur des droits des femmes, de l'égalité femmes-hommes, de la lutte contre les violences faites aux femmes. Mais alors pourquoi donc organiser un concours d'éloquence sur ce sujet? Pourquoi faire?
Alors l'idée donc c'est effectivement, vous l'avez dit, la troisième édition de ce concours d'éloquence. L'idée c'était de donner la parole sur des sujets qui concernent les femmes et de pouvoir aussi donner la parole aux femmes. Alors c'est pas du tout un concours qui est uniquement réservé aux candidates femmes, mais l'idée c'était de donner la parole et la possibilité aussi de se rendre compte de l'importance des mots pour convaincre, pour se défendre et pour nommer les choses. Donc c'est parti un peu petit, puis aujourd'hui on rayonne. Mais voilà, et c'était aussi important parce que je pense que quand on parle notamment de ceux qui prennent la parole, donc les avocats pénalistes, ce sont principalement des hommes dont on a les noms. On parle des ténors, il y a une forme de puissance, de force, presque pénienne, de sérénité. Et pour les femmes, en réalité, on ne sait pas tellement quelles sont les femmes pénalistes connues. Et on parlerait de diva, ce qui n'a rien à voir, hein, ce qui confine un peu au côté capricieux. Et donc là, l'idée, c'est de pouvoir se dire que les femmes aussi peuvent s'emparer des mots et de convaincre. C'est ce qu'on essaye de faire.
En l'occurrence, 8 candidates vont présenter un discours sur ce thème, hein, violence conjugale et féminicide. Qu'est-ce que vous attendez de ces discours? Est-ce que vous avez des conseils aux candidates pour bien réussir leur plaidoirie? Ça, c'est l'avocate, hein, l'avocate.
Non, j'ai pas de conseils à leur donner. On attend tout et rien.
Dominer sa peur, peut-être, ne serait-ce que ça.
Dominer sa peur, mais ça c'est difficile. Le trac, on l'a, et puis une fois que le premier mot est prononcé, ça va mieux. On attend tout et rien. Enfin, on attend simplement qu'elles puissent répondre à des questions. Ça peut être de manière drôle, de manière émotive, de manière sérieuse. Ça peut être un peu tout à la fois. Et elles ont des profils très différents. Il y a des militantes, une lycéenne, des avocates, une slameuse, des artistes. C'est très enrichissant à la fois pour le public qui est là, pour le jury qui va pouvoir donner son point de vue. Et l'idée, c'est de prendre la parole comme on veut, en fait. Il n'y a pas de règle pour ça. L'avantage, c'est qu'on n'est pas dans un tribunal, donc on peut faire un peu comme on veut.
Alors, vous disiez le concours n'est pas réservé aux femmes. En l'occurrence, ce sont des femmes qui candidatent. Et ce sont aussi des femmes qui composent exclusivement le jury, qui est présidé cette année par l'écrivaine Fatou Diome et dont Gisèle Halimi, la célèbre avocate et la présidente d'honneur.
Exactement.
Pourquoi entre femmes?
Alors, pourquoi entre femmes? Alors, parfois, ça arrive. C'est peut-être une jolie coïncidence.
Certes.
Ça peut arriver, on s'étonne moins quand il y a que des hommes, mais là on a fait une présélection pour les candidates et donc qui était une présélection mixte. Il s'avère que les femmes sont sorties victorieuses, une fois n'est pas coutume, donc on a que des femmes. Bon, pourquoi pas. Le public ne sera pas composé que de femmes, ni d'ailleurs que de militantes. C'est évidemment ouvert beaucoup plus largement. Il y aura 800 personnes dans la salle, donc c'est assez formidable. Et il s'avère qu'effectivement là, contrairement aux autres années, le jury est composé de femmes. Peut-être que c'est l'idée du Grenelle cette année. Peut-être que tout d'un coup, ce sont les personnalités auxquelles on a pu penser, qui ont marqué l'actualité aussi dernièrement. On a Muriel Robin, Titiou Lecoq, il y a aussi Lorraine Bastide, enfin beaucoup de femmes qui ont fait des choses, qui font avancer aussi la cause des femmes. Donc là, c'était un jury féminin.
Alors évidemment, le thème de cette année est en écho ce Grenelle lancé mardi, hein, contre les violences conjugales. Ouais. Pour vous, Zoé Royau, c'est un combat prioritaire aujourd'hui?
Oui, c'est un combat prioritaire, ça n'annule pas les autres, mais en tous les cas, c'est absolument, c'est fondamental, ça fait un moment que c'est prioritaire. En fait, il y a là 102 femmes qui sont mortes depuis le mois de janvier. Donc même une femme, ça serait prioritaire en réalité. Hein. Mais là, 102, ça devient vraiment très urgent. Nous, pour le Grenelle, à la Fondation des Femmes, on était très impatientes que ça démarre, un peu fébrile de voir ce qui allait être annoncé, et en même temps enthousiaste de se dire que pendant 2 mois, on allait pouvoir parler de ça. L'idée, c'est pas d'avoir un Grenelle tous les ans. Hein. L'idée, c'est d'en avoir un unique. Et puis ensuite, on a des restitutions et des mesures concrètes avec un budget surtout. Et je dois avouer qu'on a été extrêmement déçus, mais c'est pas fini, hein, par les annonces du Premier ministre, alors les annonces concrètes sur les mesures qu'il envisage de proposer. Certaines, on les connaissait.
Par exemple ?
D'autres, on les avait proposées. Par exemple, le fait de pouvoir déposer plainte hors les murs, donc directement à l'hôpital, ça fait partie
pour éviter le commissariat.
Exactement, éviter le commissariat, puis surtout éviter les deux étapes, c'est-à-dire l'hôpital, puis on rentre à la maison, puis on retourne au commissariat. Bon, voilà, c'est de pouvoir prendre la femme en charge immédiatement. Elle a d'autres choses à penser que de savoir comment se rendre au commissariat une fois que ses blessures auront été soignées. Bon, il y a le bracelet anti-rapprochement, c'est une mesure qui existe déjà, qui existait de manière post-sentencielle.
C'est-à-dire qui éloigne l'auteur des violences.
Qui permet en tous les cas de géolocaliser l'auteur par rapport à la femme.
Et de le tenir en l'occurrence.
Exactement.
Quand c'est un homme à distance de
exactement.
Potentiel.
Dès qu'il se rapproche, ça sonne chez elle et ça sonne chez les policiers qui arrivent immédiatement. Bon, ça c'est des mesures qui existaient déjà. Là, l'idée c'est de les mettre en place avant même que celui-ci ne soit condamné. Suspension de l'autorité parentale dans le cadre de l'instruction ou d'une enquête qui est menée. C'est important aussi pour les familles des victimes.
La création de 1000 places d'hébergement supplémentaires.
Alors,
il existe déjà 5000, hein, mais dont 250 d'urgence, a dit.
Ouais, alors ça c'est
le Premier ministre.
C'est très joli parce que ce sont des chiffres qui rassurent. Sauf qu'en réalité, quand on regarde les sous-titres, vous savez, c'est comme les conditions générales en police 8, quand on regarde en fait les sous-titres, ça pose un problème. Il nous dit 5 millions, 1000 places d'hébergement. En réalité, sur les 1000 places d'hébergement, il y en a 250 qui sont des hébergements d'urgence, d'accord ? Bon, pas forcément spécialisés. Et puis les 750 autres, elles seront financées par ce qu'on appelle l'aide au logement temporaire. C'est une aide qui date de 91, qui permet d'avoir un logement temporaire pour les personnes défavorisées, fracassées, qui n'ont pas les moyens de pouvoir se loger. Ça avait été mis en place notamment pour les gens du voyage. Mais ce sont des places, donc il y a un financement qui est fait, l'État va donner 300 €, à des organismes pour pouvoir loger les femmes de manière temporaire. Nous, ce qu'on veut, c'est un hébergement qui puisse être pérenne et surtout spécialisé. Héberger une femme victime de violence, c'est pas comme héberger quelqu'un qui est SDF. Ça veut dire qu'elle a besoin, notamment, qu'on assure sa sécurité dans un logement qui n'est pas mixte. Et là, c'est pas ce que le Premier ministre nous propose. Les associations demandaient 2000 places supplémentaires. Alors, c'est bien. Je vais pas dire que 1000 places, c'est pas bien.
C'est pas assez,
c'est juste
vous
dites. Que c'est pas assez et c'est pas assez spécialisé. C'est pas assez adapté à ce public de femmes avec ou sans enfants, qui est un public très particulier, qui doit être protégé, accompagné socialement, médicalement, psychologiquement et juridiquement.
Vous dites, Zoé Royot, que parmi d'autres associations, vous êtes déçue des mesures proposées par le gouvernement en matière de lutte contre les violences faites aux femmes et en particulier des violences conjugales, hein, qui est le thème de ce Grenelle. Est-ce que vous diriez que c'est une question de moyens ou d'investissement? Est-ce que vous pensez que finalement les responsables politiques ne prennent pas assez au sérieux ce qui se passe aujourd'hui en France? Vous rappeliez les chiffres, plus de 100 femmes depuis le début de l'année sont mortes sous les coups de leur conjoint. 220 000 femmes sont victimes chaque année de violences conjugales. Mmh. Une femme meurt tous les 2 jours et demi sous les coups de son conjoint. Comment expliquer qu'on en soit encore là et qu'on n'arrive pas à changer les choses, alors même qu'on en parle de plus en plus?
Mais vous avez raison, je pense que c'est à la fois un manque de moyens et de réelle prise en compte. On était assez contente quand on est allé avec la Fondation des Femmes rencontrer Nicole Belloubet, donc la garde des Sceaux, parce que elle a fait preuve d'humilité en disant effectivement il y a un problème, les chiffres parlent, les chiffres sont têtus, hein, c'est-à-dire qu'on peut pas les tourner dans tous les sens. Elle était tout à fait d'accord et volontaire pour pouvoir s'inspirer de l'expérience espagnole, par exemple. Il faut avoir l'humilité de dire bah nous manifestement on sait pas faire.
Alors l'influence espagnole, c'est quand même 71 femmes mortes en 2003. 47 en 2018.
Exactement.
Du fait de l'instauration d'un certain nombre de mesures, comme justement ce bracelet électronique,
ouais,
pour les hommes violents dont vous parliez, ou un téléphone d'urgence,
voilà,
pour les femmes.
Alors on a en France le téléphone grave danger, il existe, sauf qu'on n'a pas les moyens en fait pour... D'abord les policiers gendarmes ne sont pas suffisamment formés pour y faire appel, et puis par ailleurs on n'a pas les moyens humains et financiers. Et en fait la réelle difficulté, et c'est pour ça qu'on est très déçus, mais c'est notre rôle de continuer à convaincre le gouvernement, on est déçus quand le Premier ministre explique que ce n'est pas une question de moyens. Ça veut dire que là on se dit qu'on n'a rien compris, parce que le Président de la République sait, par exemple quand il libère 5 milliards pour la tech, il sait qu'en fait si on veut être compétitif, si on veut être efficace, il faut de l'argent. Donc là, c'est
en l'occurrence aussi, c'est 200 millions par an en Espagne, hein, 1 milliard,
ouais,
est débloqué sur 5 ans pour,
ouais,
lutter contre les violences conjugales. Le gouvernement français en est à 79 millions.
Exactement,
d'euros.
79 millions d'euros. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait un chiffre un peu alors je dirais pas mensonger, mais en tout cas aléatoire, qui circulait. La secrétaire d'État nous disait, il y a 500 millions qui est octroyé pour les violences faites aux femmes. C'est faux. En réalité, les 500 millions, c'est pour une politique en matière d'égalité. Il y a la moitié qui part à l'aide au développement et à la diplomatie culturelle, deux tiers à l'éducation nationale pour enseigner l'égalité à l'école, c'est formidable, et le reste, c'est le logement, la santé, et Marlène Schiappa, elle hérite de 30 millions d'euros. Donc en réalité, ces chiffres qu'on annonce, c'est pour ça que c'est comme quand on dit 5 millions, 1000 places d'hébergement, c'est très joli sur le papier, mais ça fonctionne pas. Nous, aujourd'hui, ce qu'on demande, les associations, c'est la fourchette basse, 500 millions d'euros. 500 millions d'euros pour pouvoir simplement assurer un parcours de sortie des violences conjugales des femmes, c'est-à-dire juste avant le dépôt de plainte, la phase judiciaire, et ensuite de pouvoir se réinsérer de manière pérenne dans sa vie. 500 millions d'euros, ça permettrait d'assurer le parcours de sortie de 96 800 femmes. Alors, ça paraît des chiffres énormes, mais en fait, si on le rapporte à la femme en tant que telle, c'est 5000 euros par femme.
Est-ce que, Zoé Royau, le problème n'est pas aussi que finalement, on travaille plus sur les conséquences que sur les causes? C'est le Premier ministre, d'ailleurs, qui l'a rappelé dans son discours mardi. Il a dit, ce ne sont pas des disputes de couple où les torts seraient partagés, c'est un processus d'emprise sexiste tellement ancré dans nos mentalités et dans nos pratiques que certains hommes se sont habitués à l'impunité. Donc, je ne sais pas si un Grenelle avec quelques mesures sont à même de suffire à changer les mentalités, mais est-ce qu'il n'y a pas tout un travail de politique éducative à mener avec lequel vous pouvez vous battre, vous, à la Fondation des Femmes?
Bien sûr, et ça relève de la prévention. La politique éducative, elle n'est pas que pour les enfants à l'école. On peut aussi éduquer les adultes qui étaient des enfants hier, qui sont aujourd'hui, comme vous et moi, aussi conditionnés par une société patriarcale. Donc c'est évident que ça, et ça veut dire aussi, pardon, j'insiste aussi sur l'argent, mais c'est le nerf de la guerre, ça veut dire aussi de l'argent, parce que ces adultes-là qui sont conditionnés, ils sont à la fois gendarmes, policiers, policières, magistrats, avocates, et ils ont besoin effectivement de pouvoir être formés pour comprendre quel est le processus, et il faut faire évoluer les mentalités, bien sûr. Mais tout ça, encore une fois, j'insiste beaucoup là-dessus, on est tous d'accord pour dire que les violences, c'est pas bien. On est tous d'accord pour dire que c'est insupportable que des femmes meurent sous les coups de leur mari. On est d'accord pour ça. Et qu'il faut aussi pouvoir mettre en place des programmes pour les auteurs. Parce que moins il y a d'auteurs, moins il y a de victimes. Le but, c'est aussi d'endiguer la récidive. Donc, bien sûr, tout ça, on est d'accord pour ça. Maintenant, comment on fait concrètement? Et toutes ces mesures qui sont proposées, elles ne seront possibles que si elles sont financées.
Arrêtons-nous un instant, si vous le voulez bien, Zoé Royau, sur le terme de féminicide, qui est un terme qui s'est récemment imposé dans le débat public, qui a fait son entrée dans le Petit Robert en 2015, mais qui n'est pas encore reconnu par l'Académie française. On a longtemps parlé de crime passionnel. Pour vous, c'est un progrès de parler de féminicide, ou ça ne change pas grand-chose au fond, ou c'est un problème?
Moi, je pense que c'est un progrès. Alors, sur l'Académie française, ils ont toujours un peu de retard, donc ça, je suis pas inquiète. En revanche, je pense que c'est un vrai progrès parce que ça permet de pouvoir mettre un mot et donc de rendre visible une situation. Le féminicide, c'est le fait de tuer une femme parce que c'est une femme. Et dans les cas qui nous concernent là, récemment, c'est le fait de tuer une femme parce que c'est sa femme ou parce que c'était sa femme. Donc, c'est effectivement un mot qui permet d'appréhender une réalité très particulière. Et je suis ravie qu'on en ait terminé avec les crimes passionnels, avec le fait de tuer parce qu'il y a trop d'amour. Ça, c'était pas supportable, on passe du fait divers à l'actualité, c'est très bien. Après, le fait de savoir s'il faut ou pas créer une infraction qui s'appellera féminicide...
Oui, des familles de victimes demandent l'inscription du mot dans le code pénal, par exemple.
Je ne pense pas que ce soit nécessaire, puisqu'en réalité, la question est de savoir si aujourd'hui le code pénal réprime avec précision le fait de tuer une femme parce que c'est sa femme. C'est le cas. Le meurtre est aggravé quand il est commis par le conjoint ou par l'ex. Donc, c'est important, le code pénal y répond. Je pense pas qu'il faille... Ça, je pense que c'est des effets d'annonce. C'est un peu comme les expérimentations. Je pense que c'est pas indispensable. Il y a d'autres choses et d'autres chantiers qui nous paraissent à la Fondation des Femmes plus urgents.
Il y a des critiques à l'égard non seulement de ce terme même de féminicide et puis effectivement de cette demande d'inscription du mot dans le code pénal. Parmi elles, en 2016, la Commission nationale consultative des droits de l'homme avait relevé que cela risquerait de porter atteinte à l'universalisme du droit, par exemple si le meurtre est commis au sein d'un couple de femmes. Est-ce qu'on peut parler de féminicide? Est-ce que c'est en raison de la féminité, du sexe qu'on pourrait qualifier ce meurtre? Et puis d'autres critiques formulées par exemple par l'idéologue féministe du parti Vox en Espagne. Le parti Vox en Espagne, c'est l'extrême droite, il faut quand même le signaler, qui dit que tuer une femme, c'est aussi grave que de tuer un homme, et la violence n'a pas de sexe, donc elle préfère parler de violence intrafamiliale au lieu de violence de genre. Zoé Royau, qu'est-ce que vous répondez à ce genre de critiques?
Non, violence intrafamiliale, j'aime pas trop, parce qu'en fait à ce moment-là, il n'y a plus vraiment de famille, il y a eu ou il y a une relation, mais non, les violences de genre, je pense que c'est important. Alors on peut toujours... On nous explique explique assez régulièrement d'ailleurs qu'il y a aussi des hommes victimes de violences. Oui, il y en a effectivement, c'est à la marge.
C'est 80% les auteurs sont masculins.
Exactement.
De violences et
20%. Il y a un phénomène et il faut le nommer. Féminine. Voilà. Donc vous avez parfaitement raison. Il y a un phénomène et il faut le nommer. Après, je pense que ça risque. Et ce qui est intéressant, c'est d'écouter les magistrats qui sont ceux qui qualifient les faits et eux expliquent que ça risque de compliquer un peu les qualifications. Et encore une fois, je pense qu'aujourd'hui, le code pénal répond à ce passage à l'acte très particulier. Donc ça me paraît pas utile d'engager ce chantier-là. Il y en a d'autres qui sont beaucoup plus urgents.
Merci Zoé Royaux. Surtout restez avec nous. On vous retrouve d'ici quelques minutes. Il est 8h30 sur France Culture. Une réaction, Zoé Royaux, à ce que vous venez d'entendre, à cette histoire, à cette disproportion. On voit bien que la France n'est pas la seule à avoir des soucis de dysfonctionnement, disons.
Mais j'ai l'impression que c'est toujours la même histoire.
Les procédures. En fait.
C'est toujours la même histoire qu'on raconte. C'est un homme qui tue une femme qui, par ailleurs, a déjà appelé au secours, qui a déjà déposé plainte. Et en réalité, la justice qui n'arrive pas à prendre le relais et à la protéger. C'est toujours un peu la même histoire. C'est pour ça que c'est important de donner des noms à ces femmes, des âges et de les situer. Parce que ça permet tout d'un coup de se rendre compte que ces victimes, c'est pas juste des numéros. 102 femmes, on se dit, oui, 102, c'est des chiffres. On n'arrive même pas à les comprendre. Mais si vous pensez à 102 femmes que vous connaissez autour de vous, qui d'un coup disparaissent parce qu'un homme a décidé qu'elle pourrait pas les quitter comme ça, ça fait froid dans le dos. Et c'est ça, en fait, qu'aujourd'hui doit être pris en compte par le gouvernement. Se dire qu'en fait, ça mérite. C'est très bien la tech de libérer des fonds, j'en suis ravie. Mais ça mérite aussi de l'argent, ça. Ça mérite qu'on s'y intéresse un peu plus que simplement en faisant des effets d'annonce ou en disant que on va essayer d'en héberger certaines de manière temporaire. Ça veut dire que là, c'est une responsabilité qui est collective. On est tous responsables. Et quand on dit l'éducation, ça veut dire d'éduquer les auteurs, d'éduquer aussi les victimes pour pouvoir se protéger, mais d'éduquer aussi le citoyen, c'est vous, c'est moi, qui est témoin de ces violences-là, qui détourne la tête parce qu'il a pas le temps, parce qu'il dit ça me regarde pas. C'est le voisin, c'est la directrice d'école qui voit que l'enfant n'a pas l'air bien. On est tous responsables de ça. Et à un moment, il faut tous qu'on puisse se dire que on est concerné. Qu'on peut agir.
Zoé Royaux, vous êtes avocate, pénaliste. Oui. Il vous est arrivé de défendre des femmes victimes de violences conjugales, des auteurs aussi, des
bien
auteurs
sûr aussi,
de.
Oui.
Dans quelles conditions ça se passe dans ces cas-là?
Les femmes ou les auteurs?
Les
oui,
deux. Les
pour
deux.
Défendre les femmes, ce qui est toujours d'abord c'est très compliqué de pouvoir leur apporter toute l'aide dont elles peuvent avoir besoin et il faut saluer les associations qui font un travail formidable. Mais surtout, ce qui est toujours intéressant, c'est de voir que quand on vous dit c'est bien parce qu'aujourd'hui dans les commissariats il y a des psys, des travailleurs sociaux qui viennent prendre le relais des femmes. Moi, les femmes que je défends, elles en ont jamais vu hein, de psys qui sont là pour les aider ou de travailleurs sociaux parce qu'effectivement, et encore une fois, il y a un problème de budget, pardon, je suis un peu obsessionnelle, mais et ce problème de budget, c'est qu'en fait, bah, aux horaires où elles viennent déposer plainte, et bah, il n'y a plus personne qui est là parce que voilà, il faut comprendre que les violences conjugales ou les violences sexuelles, elles n'ont pas d'horaire de bureau, hein, ça peut se passer à n'importe quel moment. Et en réalité, tout ce dispositif qui peut être là mis en place sur le papier, bah, dans la vraie vie, ça ne marche pas comme ça. Et les femmes, en réalité, ce qu'elles nous expliquent, en revanche, c'est que bah, quand elles vont déposer plainte, on leur dit non, attendez, là, ou soit c'est pas le moment pour déposer plainte, comme s'il y avait des permanences, ou alors bah, les faits que vous dénoncez sont pas suffisamment sérieux, vous parlez de violences psychologiques. Mais moi, je vois pas de violence physique sur vous, donc on peut rien faire. Alors qu'il faut rappeler aux policiers, aux gendarmes et aux femmes qui viennent déposer plainte que les policiers sont obligés de prendre les plaintes. C'est le code pénal, le code de procédure pénale qui le dit. Donc il y a pas, c'est pas à eux d'apprécier, c'est pas leur job. Eux, ils enregistrent, puis après le procureur fait son job derrière. Donc,
le gouvernement a annoncé un audit dans 400 oui, commissariats, prenant en considération ces dysfonctionnements.
Ça, c'est formidable. Mais ça, on perd du temps parce qu'on le sait. Si on interroge les assos, elles vous disent les chiffres. Les femmes vous le disent en fait, les difficultés qu'elles rencontrent.
Donc encore effet d'annonce pour vous.
Effet d'annonce, perdre du temps et de l'argent pour aller faire un audit pour dire, comme si les policiers allaient dire, bah oui, nous on n'a pas envie de prendre les plaintes, ça nous fait chier. Non.
Vous êtes avocate et féministe, porte-parole de la Fondation des Femmes. Vous exercez votre métier bénévolement au sein de cette association, Zoé Royaux. Est-ce que quand vous plaidez avec un point de vue féministe? Et qu'est-ce que ce serait, une défense féministe?
Je sais pas ce que ça serait, une défense féministe. C'est comme de considérer que je plaiderais différemment parce que je suis une femme. Je suis pas sûre que ça soit vrai.
C'est pas tout à fait pareil.
Non, vous avez raison. Mais en revanche, mais ce que je veux dire, c'est que ça participe de mon tempérament. Donc je plaide comme je suis. Il s'avère que par ailleurs, je suis féministe et je suis avocate aussi. Et du coup, j'ai été élevée comme ça, en tant que féministe. Donc j'imagine que j'ai des arguments qui sont peut-être un peu...
Issue d'une illustre famille de féministes avec une arrière-grand-mère qui dirigeait sa propre maison de couture à une époque où les femmes chefs d'entreprise étaient très rares. Et puis, vous aviez une grand-mère, une grande-tante connue, Benoît de Groult, hein, dont les écrits ont marqué des générations de féministes. Donc, effectivement, le gène féministe est peut-être ancré dans l'héritage familial.
Exactement, chez les hommes comme chez les femmes dans notre famille. On a été élevés comme ça, sur le principe d'égalité, en réalité. Et c'est intéressant que vous disiez ça, parce que ça veut dire aussi que le féminisme, c'est pas uniquement un monopole féminin. Ça concerne les hommes et les femmes. Et ça serait important que les hommes puissent s'en emparer... avec force aussi. Pour être à égalité, il faut être deux. Donc c'est important de se dire que les hommes sont aussi concernés.
Ce serait votre féminisme aujourd'hui, Zoé Royaux, par rapport à celui que on vous a enseigné ou dans lequel vous avez grandi. Vous dites c'était cette idée de l'égalité.
Ouais.
Donc c'est une continuation. Vous vous inscrivez dans la lignée justement de cette famille qui a été la vôtre de ce point de vue-là.
Je pense que c'est fondamental de considérer. Moi j'ai énormément d'hommes féministes autour de moi et je trouve que c'est fondamental de considérer que c'est pas une affaire de bonne femme en fait. Hein, ça ne concerne pas que les femmes, ça concerne tous les citoyens, et donc ça veut dire hommes et femmes.
Si on prend un petit peu de recul sur la condition plus large des femmes et à l'échelle internationale, il se trouve que vous étiez vous à l'ONU il y a un an pour assister à une conférence annuelle sur le statut des femmes. Avec quel regard vous voyez cette condition à l'échelle internationale aujourd'hui ? Vous vous dites c'est tellement on va vers un progrès ou on est dans une phase de régression ? Si je parle de régression, c'est que on voit partout, en particulier le problème du droit à l'avortement se restreindre, qu'on songe aux États-Unis, que l'on songe au Brésil, à l'Argentine, à la Pologne. Et puis de l'autre côté, il y a quand même eu MeToo et ce mouvement de libération de la parole qui peut-être a amené autre chose pour la condition des femmes. Vous regardez le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide d'une certaine façon ?
Je préfère me dire qu'il est à moitié plein. Et c'est vrai qu'on avance, alors pas forcément assez vite. Il reste beaucoup de chantiers et beaucoup de difficultés auxquelles sont confrontées les femmes en France, mais partout dans le monde. En réalité, les difficultés sont quasiment toutes les mêmes. C'est vrai que là, il y a eu un recul avec cette question du droit à l'avortement. Mais sinon, j'ai envie de me dire qu'on avance et que MeToo, vous avez raison de le souligner, il y a un avant et un après, à la fois dans les salles d'audience et puis dans les mentalités. Les gens sont beaucoup plus sensibilisés à ça. Il y a eu 30% de plaintes supplémentaires après MeToo en 2018. C'est colossal. Mais ça dit aussi qu'il faut 30% de budget en plus pour pouvoir traiter ces plaintes. Parce que sinon, c'est pas vrai que les policiers et les gendarmes vont se retrouver complètement sous l'eau et vont traiter de manière efficace. Mais j'ai envie de croire qu'on a encore beaucoup de progrès à faire et qu'il y a un idéal à atteindre, évidemment, mais qu'on a beaucoup avancé. Malgré tout, on a beaucoup avancé.
Plus de plaintes, dites-vous, hein, depuis 2 ans, du point de vue du droit, plus largement, au-delà des plaintes, est-ce que vous avez constaté des changements d'attitude, des changements dans l'évolution du rapport entre les femmes et les hommes, dans votre domaine, dans le droit en particulier ?
Alors, l'évolution dans le rapport entre les hommes et les femmes, le milieu d'avocats dans lequel je suis, est un milieu qui est relativement misogyne, en tout cas les avocats pénalistes. Hein. Encore une fois, je vous le disais, il y a les ténors et puis il y a les divas quand même. Donc les hommes se gaussent beaucoup de leur réussite. Bon, donc ça, je crois que je suis pas tout à fait sûre qu'il y ait vraiment eu une totale évolution. Peut-être que les hommes sont plus vigilants. En revanche, ce qui est intéressant, c'est de voir dans les salles d'audience, le fait que les magistrats sont, selon moi, plus sensibles, plus à l'écoute lorsque les femmes viennent déposer et tentent de faire un peu œuvre de pédagogie. Alors c'est forcé ou c'est spontané, peu importe, en tous les cas ça existe. Et j'ai l'impression que la parole des femmes, et même, ne généralisons pas, même auprès des policiers et des gendarmes, peut être parfois mieux reçue et qu'il y a un temps de qualité qui est accordé. Alors, on n'y est pas encore, hein, parce que malheureusement, les viols conjugaux ou les viols commis sur prostituées ne sont pas encore dignes des assises. Hein, on correctionnalise et on va devant le tribunal correctionnel pour contourner les jurés, parce qu'il faut que la victime soit parfaite. Et si elle ne l'est pas, il y a un risque d'acquittement ou de relax. Mais je trouve qu'il y a quand même, une évolution, une prise de conscience, un peu forcée. Mais c'est pas grave, on peut forcer un peu les mentalités à changer, puis après ça se fait tout seul.
Ça se fait tout seul ?
Après, je pense. Je pense qu'aujourd'hui, les générations qui sont à l'école sont beaucoup plus ancrées dans une forme d'égalité ma génération, par exemple, peut-être la vôtre. Je pense qu'il y a eu quand même une évolution, il y a une sensibilisation, quelque chose qui se démocratise beaucoup. Alors, c'est pas encore le cas, puis surtout, aujourd'hui, les gens qui ont du pouvoir sont des gens qui ont été des enfants, mais qui maintenant sont adultes, donc leurs mentalités sont un peu forgées. Il y a quand même un conditionnement et du patriarcat. Mais je pense que on évolue. On avance, on comprend les choses et puis on regarde les chiffres. Et donc on comprend qu'il y a un problème.
Vous en parlez en famille avec, avec
oui.
vos arrières ?
Bien sûr, ouais, je, bien sûr.
Il y a des débats.
Il y a des débats.
Même sur le mouvement féministe, sur la définition du féminisme, les débats qui traversent aujourd'hui aussi la France, Zoé Royaux.
Ouais, je crois qu'on est toutes un peu d'accord en réalité sur ça.
Dans votre famille, vous voulez dire ?
Dans
parce
ma famille.
En France, on n'est pas toujours d'accord.
Non, dans ma famille. Ah non, mais en France, on n'est pas tous d'accord. Et puis même au sein de mes amis, certains ne comprennent pas que je veuille m'appeler avocate et pas avocat, considèrent que je suis probablement hystérique. hystérique, comme le sont toutes les féministes qui, par ailleurs, seraient, pardon, hein, mes balbaisées ou lesbiennes. Enfin, je veux dire, c'est quand même un peu... ça, c'est pas du tout, c'est encore très vrai au sein de enfin, dans le public. Mais en
et
revanche,
et ça, c'est aussi un héritage de votre grande tante Benoît de Groot, qui avait travaillé justement à la féminisation
des métiers. Bien sûr. Et ça, c'était fondamental. Et ça, il y a encore une résistance. Alors, l'Académie française, depuis février, nous dit c'est OK. Donc, tant mieux. Mais il y avait une vraie résistance. Et c'est pas juste, c'est pas du détail. Le symbole est très important parce qu'en fait, à l'époque, il y avait que des hommes qui exerçaient ces professions-là. Aujourd'hui, elles sont mixtes. Et c'est important de le dire. Et vous vous rendez compte qu'on a été élevé avec cette règle grammaticale qui disait le masculin l'emporte sur le féminin. C'est presque philosophique. C'était pas juste la grammaire, en fait. Ça veut dire quelque chose de beaucoup plus fort. Et on est encore, moi, j'ai encore ça en tête. Et peut-être vous aussi.
Vous êtes, oui, vous êtes une jeune avocate, hein, Zoé oui. Royaux, et on l'entend dans la façon dont vous vous exprimez aujourd'hui. Est-ce que vous avez des modèles d'avocats et d'avocates, féministes ou non, qui vous ont aidé à grandir, à vous faire et à vous faire dans ce métier-là?
En vrai, non, je
de ténor ou de diva, pour reprendre vos termes
ouais.
de tout à l'heure.
Non, je crois pas. Enfin, il y a plein d'avocats et d'avocates que j'admire, que je trouve absolument formidables et avec une justesse et une intelligence humaine rare. Elles sont très nombreuses et ils sont nombreux aussi. Mais j'ai pas. J'aimerais bien vous dire que j'ai comme ça un mentor.
Une figure.
Voilà, une figure incroyable et que j'ai un poster dans ma chambre. Non.
Non. Bon, c'est pas grave.